Chapitre 1er, suite et fin. Il y avait pourtant à Paris, parmi les musiciens, quelques indépendants dégagés de toute école. C'étaient les seuls qui intéressassent Christophe. Seuls, ils pouvaient donner la mesure de la vitalité d'un art. Écoles et cénacles n'en expriment qu'une mode superficielle ou des théories fabriquées. Mais les indépendants qui se retirent en eux-mêmes ont plus de chances d'y trouver la pensée véritable de leur temps et de leur race. Il est vrai que par là, ils sont pour un étranger plus difficiles encore à comprendre que les autres. Ce fut ce qui advint quand Christophe entendit pour la première fois cette œuvre fameuse dont les Français disaient mille extravagances et que certains proclamaient la plus grande révolution musicale accomplie depuis 10 siècles. Les siècles ne leur coûtent guère, ils sortent peu du leur. Théophile Goujard et Sylvain Cône menèrent Christophe à l'Opéra Comique pour entendre Péléas et Mélisande. Ils étaient tout glorieux de lui montrer cette œuvre. On eût dit qu'il l'avait faite. Il laissait entendre à Christophe qu'il allait trouver là son chemin de Damas. Le spectacle était commencé, qu'ils continuaient encore leurs commentaires. Christophe les fit taire et écouta de toutes ses oreilles. Après le premier acte, il se pencha vers Sylvain Cône, qui lui demandait, les yeux brillants, « Eh bien, mon vieux lapin, qu'est-ce que vous en dites ?» Et il dit, « Est-ce que c'est tout le temps comme cela ?» Oui, mais il n'y a rien. Cône se récria et le traita de philistin. Rien du tout, continuait Christophe. Pas de musique, pas de développement. Cela ne se suit pas, cela ne se tient pas. Des harmonies très fines, de petits effets d'orchestre très bons, de très bon goût, mais ce n'est rien, rien du tout. Il se remit à écouter. Peu à peu, la lanterne s'éclairait. Il commençait à apercevoir quelque chose dans le demi-jour. Oui, il comprenait bien qu'il y avait là un parti pris de sobriété contre l'idéal wagnérien qui engloutissait le drame sous les flots de la musique. Mais il se demandait, avec quelque ironie, si cet idéal de sacrifice ne venait pas de ce que l'on sacrifiait ce que l'on ne possédait pas. Il sentait dans l'œuvre la peur de la peine, la recherche de l'effet produit avec le minimum de fatigue, le renoncement par indolence au rude effort que réclament les puissantes constructions wagnériennes. Il n'était pas sans être frappé par la déclamation unie, simple, modeste, atténuée, bien qu'elle lui parût monotone, et qu'en sa qualité d'allemand, il ne la trouva pas vraie. Il trouvait que plus elle cherchait à être vraie, plus elle faisait sentir combien la langue française convenait mal à la musique, trop logique, trop dessinée, de contours trop définis, un monde parfait en soi, mais hermétiquement clos. Néanmoins, l'essai était curieux, et Christophe en approuvait l'esprit de réaction révolutionnaire contre les violences emphatiques de l'art wagnérien. Le musicien français semblait s'être appliqué, avec une discrétion ironique, à ce que tous les sentiments passionnés se murmurassent à mi-voix. L'amour, la mort, sans cri. Ce n'était que par un tressaillement imperceptible de la ligne mélodique, un frisson de l'orchestre comme un pli au coin des lèvres, que l'on avait conscience du drame qui se jouait dans les âmes. On eût dit que l'artiste tremblait de se livrer. Il avait le génie du goût, sauf à certains instants où le massenet qui sommeille dans tous les cœurs français se réveillait pour faire du lyrisme. Alors on retrouvait les cheveux trop blonds, les lèvres trop rouges, la bourgeoise de la Troisième République qui joue la grande amoureuse. Mais ces instants étaient exceptionnels. C'était une détente à la contrainte que l'auteur s'imposait. Dans le reste de l'œuvre régnait une simplicité raffinée, une simplicité qui n'était pas simple, qui était le produit de la volonté, la fleur subtile d'une vieille société. Le jeune barbare qu'était Christophe ne la goûtait qu'à demi. Surtout, l'ensemble du drame, le poème, l'agaçait. Il croyait voir une Parisienne sur le retour qui jouait l'enfant et se faisait raconter des contes de fées. Ce n'était plus le gnangnan wagnérien, sentimental et lourdeau, comme une grosse fille du Rhin. Mais le gnangnan franco-belge ne valait pas mieux, avec ses minauderies et ses bêtasseries de salon, les cheveux, le petit père, les colombes, et tout ce mystérieux à l'usage des femmes du monde. Les âmes parisiennes se miraient dans cette pièce, qui leur renvoyait comme un tableau flatteur l'image de leur fatalisme alangui, de leur nirvana de boudoir, de leur moelleuse mélancolie. De volonté, aucune trace. Nul ne savait ce qu'il voulait. Nul ne savait ce qu'il faisait. Ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas ma faute. Gémissaient ses grands enfants. Tout le long des cinq actes, qui se déroulaient dans un crépuscule perpétuel, forêts, cavernes, souterrains, chambres mortuaires, de petits oiseaux des îles se débattaient à peine. Pauvres petits oiseaux. Jolis, tièdes et fins. Quelle peur ils avaient de la lumière trop vive, de la brutalité, des gestes, des mots, des passions, de la vie. La vie n'est pas raffinée. La vie ne se prend pas avec des gants. Christophe entendait venir le roulement des canons qui allaient broyer cette civilisation épuisée, cette petite Grèce expirante. Était-ce ce sentiment de pitié orgueilleuse qui lui inspirait malgré tout une sympathie pour cette œuvre? Toujours est-il qu'elle l'intéressait, plus qu'il n'en voulait convenir. Quoiqu'il persistât à répondre à Sylvain Cohn au sortir du théâtre que c'était très fin, mais que cela manquait de schwung, d'élan, et qu'il n'y avait pas là assez de musique pour lui, il se gardait bien de confondre Pelléas avec les autres œuvres musicales françaises. Il était attiré par cette lampe qui brûlait au milieu du brouillard. Il apercevait encore d'autres lueurs, vives, fantasques, qui tremblotaient autour. Ces feux follets l'intriguaient. Il eût voulu s'en approcher pour savoir comment ils brillaient. Mais il n'était pas facile à saisir. Ces libres musiciens que Christophe ne comprenait pas, et qu'il était d'autant plus curieux d'observer, était peu abordable. Il semblait manquer du grand besoin de sympathie qui possédait Christophe. À part un ou deux, il lisait peu, connaissait peu, désirait peu connaître. Presque tous vivaient à l'écart, isolés, de fait et de volonté, enfermés dans un cercle étroit, par orgueil, par sauvagerie, par dégoût, par apathie. Si peu nombreux qu'ils fussent, ils étaient divisés en petits groupes rivaux, qui ne pouvaient vivre ensemble. Ils étaient d'une susceptibilité extrême et ne supportaient ni leurs ennemis, ni leurs rivaux, ni même leurs amis, quand ceux-ci osaient admirer un autre musicien ou quand ils se permettaient de les admirer d'une façon ou trop froide, ou trop exaltée, ou trop banale, ou trop excentrique. Il devenait excessivement difficile de les satisfaire. Chacun d'eux avait fini par accréditer un critique muni de sa patente, qui veillait jalousement au pied de la statue. Il n'y fallait point toucher. Pour n'être compris que d'eux-mêmes, ils n'en étaient pas mieux compris. Adulés, déformés par l'opinion que leurs partisans avaient d'eux, et qu'ils s'en faisaient eux-mêmes, ils perdaient pied dans la conscience qu'ils avaient de leur art et de leur génie. D'aimables fantaisistes se croyaient réformateurs. Des artistes alexandrins se posaient en rivaux de Wagner. Presque tous étaient victimes de la surenchère. Il fallait qu'ils sautassent chaque jour plus haut qu'ils n'avaient sauté la veille et que leurs rivaux n'avaient sauté. Ces exercices de haute voltige ne leur réussissaient pas toujours, et cela n'avait d'attrait que pour quelques professionnels. Ils ne se souciaient pas du public, le public ne se souciait pas d'eux. Leur art était un art sans peuple, une musique qui ne s'alimentait que dans la musique, dans le métier. Or, Christophe avait l'impression, vraie ou fausse, qu'aucune musique, plus que celle de France, n'aurait eu besoin de chercher un appui en dehors d'elle. Cette plante souple et grimpante ne pouvait se passer d'été, elle ne pouvait se passer de littérature. Elle ne trouvait pas en elle assez de raisons de vivre. Elle avait le souffle court, peu de sang, pas de volonté. Elle était comme une femme alanguie qui attend un mâle qui la prenne. Mais cette impératrice de Byzance, au corps fluet, exsangue, et chargée de pierreries, était entourée d'eunuques, snobs, esthètes et critiques. La nation n'était pas musicienne, et tout cet engouement, bruyamment proclamé depuis 20 ans, pour Wagner, Beethoven, ou Bach, ou Debussy, ne dépassait guère une caste. Cette multiplication de concerts, cette marée envahissante de musique à tout prix, ne répondait pas à un développement réel du goût public. C'était un surmenage de la mode, qui ne touchait que l'élite et qui la détraquait. La musique n'était vraiment aimée que d'une poignée de gens. Et ce n'était pas toujours ceux qui s'en occupaient le plus, compositeurs et critiques. Il y a si peu de musiciens en France qui aiment vraiment la musique. Ainsi pensait Christophe. Et il ne se disait pas que c'est partout ainsi, que même en Allemagne, il n'y a pas beaucoup de vrais musiciens, et que ce qui compte en art, ce ne sont pas les milliers qui ne comprennent rien, mais la poignée de gens qui l'aiment et qui le servent avec une fière humilité. Les avaient-ils vus en France? Créateurs et critiques, les meilleurs travaillaient en silence, loin du bruit, comme Franck avait fait, comme faisaient les mieux doués des compositeurs d'à présent, tant d'artistes qui vivraient toute leur vie dans l'ombre, pour fournir plus tard à quelques journalistes la gloire de les découvrir et de se dire leur ami, et cette petite armée de savants laborieux qui, sans ambition, insoucieux d'eux-mêmes, relevaient pierre à pierre la grandeur de la France passée, ou qui, s'étant voués à l'éducation musicale du pays, préparaient la grandeur de la France à venir. Combien il y avait là d'esprit dont la richesse, la liberté, la curiosité universelle eût attiré Christophe s'il avait pu les connaître. Mais à peine avait-il entrevu en passant deux ou trois d'entre eux. Il ne les connaissait qu'à travers des caricatures de leurs pensées. Il ne voyait que leurs défauts, copiés, exagérés par les singes de l'art et les commis voyageurs de la presse. Cette plèbe musicale l'écœurait surtout par son formalisme. Jamais il n'était question entre eux d'autre chose que de la forme. Du sentiment, du caractère, de la vie, pas un mot. Pas un ne se doutait que tout vrai musicien vit dans un univers sonore et que ses journées se déroulent en lui comme un flot de musique. La musique est l'air qu'il respire, le ciel qui l'enveloppe. Même son âme est musique. Musique, tout ce qu'elle aime, est, souffre, craint, espère. Une âme musicale, quand elle aime un beau corps, le voit comme une musique. Les chers yeux qui la charment ne sont ni bleus, ni gris, ni bruns, ils sont musique. Elle éprouve à les voir l'impression d'un accord délicieux. Cette musique intérieure est mille fois plus riche que celle qu'il exprime, et le clavier est inférieur à celui qui en joue. Le génie se mesure à la puissance de la vie, que tâche d'évoquer l'art, cet instrument imparfait. Mais combien de gens s'en doutent en France? Pour ce peuple de chimistes, la musique semble n'être que l'art de combiner des sons. Ils prennent l'alphabet pour le livre. Christophe haussait les épaules quand il les entendait dire que, pour comprendre l'art, il faut faire abstraction de l'homme. Ils apportaient à ce paradoxe une grande satisfaction, car ils croyaient ainsi se prouver leur musicalité. Jusqu'à Goujard, ce niais qui n'avait jamais pu comprendre comment on pouvait faire pour se rappeler par cœur une page de musique, il avait tâché de se faire expliquer ce mystère par Christophe, ne prétendait-il pas maintenant lui enseigner que la grandeur d'âme de Beethoven et la sensibilité de Wagner n'avaient pas plus de part à leur musique que le modèle d'un peintre n'en a à ses portraits? Cela prouve, finit par lui répondre Christophe, impatienté, que pour vous un beau corps n'a pas de prix artistique. Pas plus qu'une grande passion. Pauvre homme, vous ne vous doutez pas de tout ce que la beauté d'une figure parfaite ajoute à la beauté de la peinture qui la retrace, comme la beauté d'une grande âme à la beauté de la musique qui la reflète. Pauvre homme. Le métier seul vous intéresse, pourvu que ça soit de l'ouvrage bien fait, cela vous est égal ce que l'ouvrage veut dire. Pauvre homme. Vous êtes comme ces gens qui n'écoutent pas ce que dit l'orateur, mais le son de sa voix, qui regardent sans comprendre ses gesticulations et qui trouvent qu'il parle diablement bien. Pauvre homme. Pauvre homme, bougre de crétin. Mais ce n'était pas seulement telle ou telle théorie qui irritait Christophe, c'était toutes les théories. Il était excédé de ces disputes byzantines, de ces conversations de musiciens éternellement sur la musique, uniquement sur la musique. Il y avait de quoi en dégoûter à jamais le meilleur musicien. Christophe pensait, comme Moussorski, que les musiciens ne feraient pas mal de laisser de temps en temps leurs contrepoints et leurs harmonies pour la lecture de beaux livres et l'expérience de la vie. La musique ne suffit pas à un musicien. Ce n'est pas ainsi qu'il arrivera à dominer le siècle et à s'élever au-dessus du néant. La vie, toute la vie, tout voir et tout connaître, aimer, chercher, étreindre la vérité. La belle Penthésilée, reine des Amazones, qui mord celui qui la baise. Assez de parlottes musicales, assez de boutiques à fabriquer les accords. Tous ces ragots de cuisine harmonique était bien incapable de lui apprendre à trouver une harmonie nouvelle qui ne fût pas un monstre, mais un être vivant. Il tourna le dos à ses docteurs Wagner, couvant leurs alambics pour faire éclore quelques homonculus en bouteille, et, s'évadant de la musique française, il tâcha de connaître le milieu littéraire et la société parisienne. Ce fut par les journaux quotidiens que Christophe fit d'abord connaissance, comme des millions de gens en France, avec la littérature française de son temps. Comme il était désireux de se mettre le plus vite possible au diapason de la pensée parisienne, en même temps que de se perfectionner dans la langue, il s'imposa de lire avec beaucoup de conscience les feuilles qu'on lui disait les plus parisiennes. Le premier jour, il lut parmi des faits divers horrifiants, dont la narration et les instantanés remplissaient plusieurs colonnes, une nouvelle sur un père qui couchait avec sa fille, âgée de 15 ans. La chose était présentée comme toute naturelle et même assez touchante. Le second jour, il lut dans le même journal une nouvelle sur un père et son fils, âgés de 12 ans, qui couchaient avec la même fille. Le troisième jour, il lut une nouvelle sur un frère qui couchait avec sa sœur. Le quatrième, sur 2 sœurs qui couchaient ensemble. Le cinquième, il jeta le journal avec un haut-le-cœur et dit à Sylvain Cohn « Ah ça, qu'est-ce que vous avez? Vous êtes malade ?» Sylvain Cohn se mit à rire et dit « C'est de l'art. » Christophe haussa les épaules. « Vous vous moquez de moi. » Cohn rit de plus belle. « En aucune façon, voyez plutôt. » Il montra à Christophe une enquête récente sur l'art et la morale, d'où il résultait que l'amour sanctifiait tout, que la sensualité était le ferment de l'art, que l'art ne pouvait être immoral, que la morale était une convention inculquée par une éducation jésuitique, et que seul comptait l'énormité du désir. Une suite de certificats littéraires attestait dans les journaux la pureté d'un roman qui peignait les mœurs des souteneurs. Certains des répondants étaient les plus grands noms de la littérature ou d'austères critiques. Un poète des familles, bourgeois et catholique, donnait sa bénédiction d'artiste à une peinture très soignée des mauvaises mœurs grecques. Des réclames lyriques exaltaient des romans où laborieusement s'étalait la débauche à travers les âges. Rome, Alexandrie, Byzance, la Renaissance italienne et française, le Grand Siècle, c'était un cours complet. Un autre cycle d'études embrassait les divers pays du globe. Des écrivains consciencieux s'étaient consacrés, avec une patience de bénédictin, à l'étude des mauvais lieux des 5 parties du monde. On trouvait parmi ces géographes et ces historiens du RUT des poètes distingués et de parfaits écrivains. On ne les distinguait des autres qu'à leur érudition. Ils disaient en termes impeccables des polissonneries archaïques. L'affligeant était de voir de braves gens et de vrais artistes, des hommes qui jouissaient dans les lettres françaises d'une juste notoriété, s'évertuer à ce métier pour lequel ils n'étaient point doués. Certains s'épuisaient à écrire, comme les autres, des ordures que les journaux du matin débitaient par tranches. Ils pondaient cela régulièrement, à date fixe, 1 ou 2 fois par semaine, et cela durait depuis des années. Ils pondaient, n'ayant plus rien à dire, se torturant le cerveau pour en faire sortir quelque chose de nouveau, saugrenu, incongru. Car le public, gorgé, se lassait de tous les plats et trouvait bien fades les imaginations de plaisir les plus dévergondées. Il fallait faire l'éternelle surenchère, surenchère sur les autres, surenchère sur soi-même. Et ils pondaient leur sang, ils pondaient leurs entrailles. C'était un spectacle lamentable et grotesque. Christophe ne connaissait pas tous les dessous de ce triste métier, et s'il les eût connus, il n'en eût pas été plus indulgent, car rien au monde n'excusait à ses yeux un artiste de vendre l'art pour 30 deniers. Même pas d'assurer le bien-être de ceux qu'il aime. Même pas, ce n'est pas humain. Il ne s'agit pas d'être humain, il s'agit d'être un homme. Humain, Dieu bénisse votre humanitarisme au foie blanc. On n'aime pas 20 choses à la fois, on ne sert pas plusieurs dieux. Dans sa vie de travail, Christophe n'était guère sorti de l'horizon de sa petite ville allemande. Il ne pouvait se douter que cette dépravation artistique, qui s'étalait à Paris, était commune à presque toutes les grandes villes. Et les préjugés héréditaires de la chaste Allemagne contre l'immoralité latine se réveillaient en lui. Sylvain Cohn aurait eu beau jeu à lui opposer ce qui se passait sur les bords de la Spree et l'effroyable pourriture d'une élite de l'Allemagne impériale, dont la brutalité rendait l'ignominie plus repoussante encore. Mais Sylvain Cohn ne pensait pas à en tirer avantage. Il n'en était pas plus choqué que des mœurs parisiennes. Il pensait ironiquement « chaque peuple a ses usages », et il trouvait naturel ceux du monde où il vivait. Christophe pouvait donc croire qu'ils étaient la nature même de la race. Aussi ne se faisait-il pas faute, comme ses compatriotes, de voir dans l'ulcère qui dévore les aristocraties intellectuelles de tous les pays le vice propre de l'art français, la tare des races latines. Ce premier contact avec la littérature parisienne lui fut pénible, et il lui fallut du temps pour l'oublier par la suite. Les œuvres ne manquaient pourtant pas, qui n'étaient point uniquement occupées de ce que l'un de ses écrivains appelait noblement le goût des divertissements fondamentaux. Mais des plus belles et des meilleures, rien ne lui arrivait. Elle n'était pas de celles qui cherchent les suffrages des Sulvin Cône. Elle ne s'inquiétait pas d'eux, et ils ne s'inquiétaient pas d'elle. Ils s'ignoraient mutuellement. Jamais Sulvin Cône n'en eût parlé à Christophe. De bonne foi, il était convaincu que ses amis et lui incarnaient l'art français, et qu'en dehors de ce que leur opinion avait sacré grands hommes, il n'y avait point de talent, il n'y avait point d'art, il n'y avait point de France. Des poètes qui étaient l'honneur des lettres, la couronne de la France, Christophe ne connut rien. Des romanciers, seuls lui parvinrent, émergeant au-dessus de la marée des médiocres, quelques livres de Barrès et d'Anatole France. Mais il était trop peu familiarisé avec la langue pour pouvoir bien goûter l'ironie érudite de l'un, le sensualisme cérébral de l'autre. Il resta quelque temps à regarder curieusement les orangers en caisse qui poussaient dans la serre d'Anatole France, et les narcisses grêles qui émaillaient le cimetière d'âmes de Barrès. Il s'arrêta quelques instants devant le génie un peu sublime, un peu niais, de Maeterlinck. Un mysticisme monotone, mondain, s'en exhalait. Il se secoua, tomba dans le torrent épais, le romantisme boueux de Zola, qu'il connaissait déjà, et n'en sortit que pour se noyer tout à fait dans une inondation de littérature. De ces plaines submergées s'exhalait un odor di femina. La littérature d'alors pullulait de femmes et d'hommes femelles. Il est bien que les femmes écrivent, si elles ont la sincérité de peindre ce qu'aucun homme n'a su voir tout à fait, le fond de l'âme féminine. Mais bien peu l'osaient faire. La plupart n'écrivaient que pour attirer l'homme. Elles étaient aussi menteuses dans leurs livres que dans leurs salons. Elles s'embellissaient fadement et flirtaient avec le lecteur. Depuis qu'elles n'avaient plus de confesseur à qui raconter leurs petites malpropretés, elles les racontaient en public. C'était une pluie de romans, presque toujours scabreux, toujours maniérés, écrits dans une langue qui avait l'air de zézayer. Une langue qui sentait la boutique à parfum et l'obsédante odeur fade, chaude et sucrée. Elle était partout dans cette littérature. Christophe pensait, comme Goethe, que les femmes fassent autant qu'elles veulent des poésies et des écrits, mais que les hommes n'écrivent pas comme des femmes. Voilà ce qui ne me plaît point. Il ne pouvait voir sans dégoût cette coquetterie louche, ces minauderies, cette sensiblerie qui se dépensait de préférence au profit des êtres les moins dignes d'intérêt, ce style pétri de mignardise et de brutalité, ces charretiers psychologues. Mais Christophe se rendait compte qu'il ne pouvait juger. Il était assourdi par le bruit de la foire aux paroles. Impossible d'entendre les jolis airs de flûte qui se perdaient au milieu. Parmi ses œuvres de volupté, il en était au fond desquelles souriait sur le ciel limpide la ligne harmonieuse des collines de l'Attique. Tant de talent et de grâce, une douceur de vivre, une finesse de style, une pensée pareille aux langoureux adolescents de Pérugin et du jeune Raphaël, qui, les yeux à demi clos, sourit à leurs rêves amoureux. Christophe n'en voyait rien. Rien ne pouvait lui révéler les courants de l'esprit. Un Français aurait eu lui-même grand-peine à s'y reconnaître. Et la seule constatation qu'il lui était permis de faire, c'était de ce débordement d'écriture qui avait l'air d'une calamité publique. Il semblait que tout le monde écrivît, hommes, femmes et enfants, officiers, comédiens, gens du monde et forbans. Une vraie épidémie. Christophe renonça pour l'instant à se faire une opinion. Il sentait qu'un guide, comme Sulvin Cône, ne pourrait que l'égarer tout à fait. L'expérience qu'il avait eue en Allemagne d'un cénacle littéraire le mettait justement en défiance. Il était sceptique à l'égard des livres et des revues. Savait-on s'il ne représentait pas simplement l'opinion d'une centaine de désœuvrés, ou même si l'auteur n'était pas tout le public à lui tout seul? Le théâtre donnait une idée plus exacte de la société. Il tenait à Paris, dans la vie quotidienne, une place exorbitante. C'était un restaurant pantagruélique qui ne suffisait pas à assouvir l'appétit de ces 2 millions d'hommes. Une trentaine de grands théâtres, sans parler des scènes de quartier, des cafés-concerts, des spectacles divers, une centaine de salles chaque soir presque toutes pleines. un peuple d'acteurs et d'employés. Les quatre théâtres subventionnés occupant à eux seuls près de 3 000 personnes et dépensant 10 millions. Paris entier rempli de gloire des cabots. À chaque pas, d'innombrables photos, dessins, caricatures répétaient leurs grimaces, les gramophones leurs nasillements, les journaux leurs jugements sur l'art et sur la politique. Ils avaient leur presse spéciale. Ils publiaient leurs mémoires héroïques et familiers. Parmi les autres Parisiens, ces grands enfants flâneurs qui passaient leur temps à se singer, ces singes complets tenaient le sceptre. Et les auteurs dramatiques étaient leurs chambellans. Christophe pria Sylvain Cône de l'introduire dans le royaume des reflets et des ombres. Mais Sylvain Cône n'était pas un guide plus sûr dans ce pays que dans celui des livres, et la première impression que Christophe eut, grâce à lui, des théâtres parisiens ne fut pas moins repoussante que celle de ses premières lectures. Il semblait que partout régnât le même esprit de prostitution cérébrale. Il y avait deux écoles parmi les marchands de plaisir. L'une était à la bonne vieille mode, la façon nationale, le gros plaisir bien salé à la bonne franquette, la joie de la laideur, des digestions copieuses, des difformités physiques, les gens en caleçon, les plaisanteries de corps de garde, la bisque, le poivre rouge, les viandes faisandées, les cabinets particuliers, cette mâle franchise, comme disent ces gens-là, qui prétend concilier la gaillardise et la morale, parce qu'après 4 actes de chiennerie, elle ramène le triomphe du code en jetant au hasard de quelqu'un polio la femme légitime dans le lit du mari qu'elle voulait cocufier. Pourvu que la loi soit sauve, la vertu l'est aussi. Cette honnêteté grivoise qui défend le mariage en lui donnant les allures de la débauche, le genre gaulois. L'autre école était moderne style. Elle était beaucoup plus raffinée, plus écœurante aussi. Les juifs parisianisés et les chrétiens judaïsés qui foisonnaient au théâtre y avaient introduit le micmac de sentiments qui est le trait distinctif d'un cosmopolitisme dégénéré. Ces fils qui rougissaient de leur père s'appliquent à renier la conscience de leur race. Ils n'y réussissaient que trop. Après avoir dépouillé leur âme séculaire, il ne leur restait plus de personnalité que pour mêler les valeurs intellectuelles et morales des autres peuples. Ils en faisaient une Macédoine, une Oia Podrida. C'était leur façon d'en jouir. Ceux qui étaient les maîtres du théâtre à Paris excellaient à battre ensemble l'ordure et le sentiment, à donner à la vertu un parfum de vice, au vice un parfum de vertu, à intervertir toutes les relations d'âge, de sexe, de famille, d'affection. Leur art avait ainsi une odeur sui generis qui sentait bon et mauvais à la fois, c'est-à-dire très mauvais. Ils nommaient cela amoralisme. Un de leurs héros de prédilection était alors le vieillard amoureux. Leur théâtre en offrait une riche galerie de portraits. Ils trouvaient dans la peinture de ce type l'occasion d'étaler 1000 délicatesses. Tantôt le héros sexagénaire avait sa fille pour confidente. Il lui parlait de sa maîtresse. Elle lui parlait de ses amants. Ils se conseillaient fraternellement. Le bon père aidait sa fille dans ses adultères. La bonne fille s'entremettait auprès de la maîtresse infidèle, la suppliait de revenir, la ramenait au bercail. Tantôt le digne vieillard se faisait le confident de sa maîtresse. Il causait avec elle des amants qu'elle avait, sollicitait le récit de ses libertinages, et même il finissait par y trouver plaisir. On voyait des amants, gentlemen accomplis, qui étaient les intendants gagés de leurs anciennes maîtresses, veillaient sur leur commerce et leurs accouplements. Les femmes du monde volaient. Les hommes étaient maquereaux, les filles lesbiennes. Tout cela dans le meilleur monde, le monde riche, le seul qui compta. Car il permettait d'offrir aux clients, sous le couvert des séductions du luxe, une marchandise avariée. Ainsi maquillées, elles s'enlevaient sur la place. Les jeunes femmes et les vieux messieurs en faisaient leurs délices. Il se dégageait de là un fumet de cadavres et de pastilles du sérail. Leur style n'était pas moins mêlé que leurs sentiments. Ils s'étaient fait un argot composite d'expressions de toute classe et de tout pays, pédantesques, chat-noiresques, classiques, lyriques, précieux, poisseux, poissards, mixture de coq à l'âne, d'affaîtrie, de grossièreté et de mode esprit, qui semblaient avoir un accent étranger. Ironique et doué d'un humour bouffon, ils n'avaient pas beaucoup d'esprit naturel, mais, adroits comme ils étaient, ils en fabriquaient assez habilement, à l'instar de Paris. Si la pierre n'était pas toujours de la plus belle eau, et si presque toujours la monture était d'un goût baroque et surchargé, Du moins, cela brillait aux lumières. C'était tout ce qu'il fallait. Intelligents d'ailleurs, bons observateurs, mais observateurs myopes, les yeux déformés depuis des siècles par la vie de comptoir, examinant les sentiments à la loupe, grossissant les choses menues et ne voyant pas les grandes. Avec une prédilection marquée pour les oripeaux, ils étaient incapables de peindre autre chose que ce qui semblait à leur snobisme de parvenu l'idéal de l'élégance. Une poignée de viveurs fatigués et d'aventuriers qui se disputaient la jouissance de quelque argent volé et de femelles sans vertu. Parfois, la vraie nature de ces écrivains juifs se réveillait, montait des lointains de leur être à propos d'on ne savait quels échos mystérieux provoqués par le choc d'un mot. Alors c'était un amalgame étrange de siècles et de races, un souffle du désert qui, par-delà les mers, apportait dans ces alcôves parisiennes des relents de bazar turc, l'éblouissement des sables, des hallucinations, une sensibilité ivre, une puissance d'invective, une névrose enragée, à deux doigts des convulsions, une frénésie de détruire. Samson qui, brusquement assis depuis des siècles dans l'ombre, se lève comme un lion et secoue avec rage les colonnes du temple qui s'écroulent sur lui et sur la race ennemie. Christophe se boucha le nez et dit à Sylvain Cône « Il y a de la force là-dedans, mais elle pue. Assez, allons voir autre chose. »« Quoi ?» demanda Sylvain Cône. « La France. » »« La voilà, » dit Cône. « Ce n'est pas possible, » fit Christophe. « La France n'est pas ainsi. » La France, comme l'Allemagne. Je n'en crois rien. Un peuple qui serait ainsi n'en aurait pas pour 20 ans. Il sent déjà le pourri. Il y a autre chose. Il n'y a rien de mieux. Il y a autre chose, s'entêta Christophe. Oh, nous avons aussi de belles âmes, dit Sylvain Cône, et des théâtres à leur mesure. Est-ce là ce qu'il vous faut? On peut vous en offrir. Il conduisit Christophe au Théâtre Français. On jouait ce soir-là une comédie moderne en prose qui traitait d'une question juridique. Dès les premiers mots, Christophe ne sut plus dans quel monde cela se passait. Les voix des acteurs étaient démesurément amples, lentes, graves, compassées. Elles articulaient toutes les syllabes comme si elles voulaient donner des leçons de diction. Elles paraissaient scander perpétuellement des alexandrins avec des hoquets tragiques. Les gestes étaient solennels et presque hiératiques. L'héroïne, drapée de son peignoir comme d'un péplum grec, le bras levé, la tête baissée, jouait l'Antigone toujours et souriait d'un sourire d'éternel sacrifice en modulant les notes les plus profondes de son beau contralto. Le père noble marchait d'un pas de maître d'armes avec une dignité funèbre, un romantisme en habit noir. Le jeune premier se contractait froidement la gorge pour en tirer des pleurs. La pièce était écrite en style de tragédie feuilleton. C'était des mots abstraits, des épithètes bureaucratiques, des périphrases académiques. Pas un mouvement, pas un cri imprévu. Du commencement à la fin, un mécanisme d'horloge, un problème posé, un schéma dramatique, un squelette de pièce, et dessus, point de chair, des phrases de livre. Au fond de ces discussions qui voulaient paraître hardies, des idées timorées, une âme de petit bourgeois gourmet. L'héroïne avait divorcé d'avec un mari indigne dont elle avait un enfant, et elle s'était remariée avec un honnête homme qu'elle aimait. Il s'agissait de prouver que même en ce cas, le divorce était condamné par la nature comme par le préjugé. Pour cela, rien de plus facile. L'auteur s'arrangeait de façon à ce que le premier mari reprît la femme une fois par surprise. Et après, au lieu de la nature toute simple, qui eût voulu des remords, une honte peut-être, mais le désir d'aimer d'autant plus le second, l'honnête homme, on présentait un cas de conscience héroïque, hors nature. Il en coûte si peu d'être vertueux, hors nature. Les écrivains français n'ont pas l'air familiers avec la vertu. Ils forcent la note quand ils en parlent. Il n'y a plus moyen d'y croire. On dirait qu'on a toujours affaire à des héros de Corneille, à des rois de tragédie. Et ne sont-ils pas des rois, ces héros millionnaires? Ces héroïnes qui toutes ont pour le moins un hôtel à Paris et 2 ou 3 châteaux, la richesse pour ces sortes d'écrivains est une beauté, presque une vertu. Le public paraissait à Christophe encore plus étonnant que la pièce. Aucune invraisemblance ne le troublait. Il riait aux bons endroits quand l'acteur disait la phrase qui devait faire rire en l'annonçant à l'avance, afin qu'on eût le temps de se préparer à rire. Il se mouchait, toussait, ému jusqu'aux larmes, quand les mannequins tragiques hoquetaient, rugissaient ou s'évanouissaient selon les rites consacrés. « Et on dit que les Français sont légers !» s'exclama Christophe au sortir de la représentation. « Il y a temps pour tout !» dit Sylvain Cône, gouaillant. « Vous vouliez la vertu ? Vous voyez qu'il y en a encore en France. »«
Mais ce n'est pas de la vertu !» se récria Christophe. « C'est de l'éloquence !»
« Chez nous, dit Sylvain Cône, la vertu au théâtre est toujours éloquente. »«
Vertu de prétoire, dit Christophe, la palme est au plus bavard. Je hais les avocats. N'avez-vous pas des poètes en France ?»
Sylvain Cône le mena à des théâtres poétiques.
Il y avait des poètes en France. Il y avait même de grands poètes. Mais le théâtre n'était pas pour eux. Il était pour les rimeurs. Le théâtre est à la poésie ce qu'est l'opéra à la musique, comme disait Berlioz, sicut amori lupanar.
Christophe vit des princesses courtisanes par sainteté, qui mettaient leur honneur à se prostituer et que l'on comparait au Christ gravissant le calvaire. Des amis qui trompaient leur ami par dévouement pour lui. De vertueux ménages à trois. Des cocus héroïques. Le type était devenu, comme la chaste prostituée, un article européen. L'exemple du roi Marc leur avait tourné la tête. Tel le cerf de Saint-Hubert, il ne se présentait plus qu'avec une auréole. Christophe vit aussi des filles galantes qui étaient partagées comme chimènes entre la passion et le devoir. La passion était de suivre un nouvel amant, le devoir était de rester avec l'ancien, un vieux qui leur donnait de l'argent et que d'ailleurs elles trompaient. À la fin, noblement, elles choisissaient le devoir. Christophe trouvait que ce devoir différait peu du sordide intérêt, mais le public était content. Le mot de devoir lui suffisait. Il ne tenait pas à la chose, le pavillon couvrait la marchandise. Le comble de l'art était quand pouvait s'accorder, de la façon la plus paradoxale, l'immoralité sexuelle avec l'héroïsme cornélien. Ainsi, tout était satisfait chez ce public parisien, son libertinage d'esprit et sa vertu oratoire. Il faut lui rendre justice. Il était encore plus bavard que paillard. L'éloquence faisait ses délices. Il se fut fait fouetter pour un beau discours. Vice ou vertu, héroïsme abracadabrant ou bassesse crapuleuse, il n'était pas de pilule qu'on ne lui fît avaler, dorée de rimes sonores et de mots ronflants. Tout était matière à couplets. Tout était phrase, tout était jeu. Quand Hugo faisait entendre son tonnerre, vite, comme disait son apôtre Mendès, il y mettait une sourdine pour ne pas effrayer même un petit enfant. L'apôtre était persuadé qu'il faisait un compliment. Jamais on ne sentait dans leur art une force de la nature. Ils mondanisaient tout, l'amour, la souffrance, la mort. Comme en musique, bien plus encore qu'en musique, qui était un art plus jeune en France et relativement plus naïf, ils avaient la terreur du déjà-dit. Les mieux doués s'appliquaient froidement à en prendre le contre-pied. La recette était simple. On faisait choix d'une légende ou d'un conte d'enfant, et on leur faisait dire juste le contraire de ce qu'ils voulaient dire. On obtenait ainsi Barbe Bleue battue par ses femmes, ou Polyphème qui se crève l'œil par bonté, afin de se sacrifier au bonheur d'Assis et de Galatée. En tout cela, rien de sérieux que la forme. Encore semblait-il à Christophe, mais il était mauvais juge, que ces maîtres de la forme étaient de petits maîtres et des maîtres pasticheurs, plutôt que de grands écrivains, créateurs de leur style et peignant largement. Nulle part, le mensonge poétique ne s'étalait avec plus d'insolence que dans le drame héroïque. Il se faisait du héros une conception burlesque. L'important, c'est d'avoir une âme magnifique, un œil d'aigle, un front large et haut comme un portique, un air puissant et grave, émouvant, radieux, un cœur plein de frissons, du rêve plein les yeux. De tels vers étaient pris au sérieux. Sous l'affublement des grands mots, des panaches, des parades de théâtre, avec des épées de fer blanc et des casques en carton, on retrouvait toujours l'incurable futilité d'un Sardou, l'intrépide vaudevilliste, qui jouait guignol avec l'histoire. À quoi pouvait répondre, dans la réalité, l'absurde héroïsme d'un Cyrano? Ces gens-là remuaient le ciel et la terre. Ils faisaient sortir de leur tombeau l'empereur et ses légions, les bandes de la Ligue, les condottieri de la Renaissance, tous les cyclones humains qui dévastèrent l'univers.
et c'était pour montrer quelques fantoches, impassibles dans les massacres, entourés d'armées de reîtres et de sérailles de captives, qui se consumaient dans l'amour de petits bêtas romanesques pour une femme qu'il avait vue 10 ou 15 ans avant. Ou le roi Henri IV, qui allait se faire assassiner parce que sa maîtresse ne l'aimait pas. C'est ainsi que ces bonnes gens jouaient les rois et les héros de chambre. Digne rejeton des illustres benêts du temps du grand Cyrus, ces gascons de l'idéal, Scudéry, la Calprenède, chantre du faux héroïsme, de l'héroïsme impossible qui est l'ennemi du vrai. Christophe remarquait avec étonnement que les Français, qui se disent si fins, n'avaient pas le sens du ridicule. Mais ce qui passait tout, c'était quand la religion était à la mode. Alors, pendant le carême, des comédiens lisaient au théâtre de la Gaîté les sermons du Bossuet avec accompagnement d'orgue. Des auteurs israélites écrivaient pour des actrices israélites des tragédies sur Sainte Thérèse. On jouait Chemin de la Croix à la Bodinière, L'Enfant Jésus à l'Ambigu, La Passion à la Porte Saint-Martin, Jésus à l'Odéon. Des suites d'orchestre sur le Christ au Jardin d'acclimatation. Quelques brillants causeurs, un poète de l'amour voluptueux, faisait au Châtelet une conférence sur la rédemption. Naturellement, de tout l'évangile, ce que ces snopes avaient le mieux retenu, c'était Pilate et la Madeleine. Qu'est-ce que la vérité et la Vierge folle? Et leur Christ boulevardier était d'affreux bavards, au courant des dernières ficelles de la casuistique mondaine. Christophe dit « Cela, c'est le pire de tout. C'est le mensonge incarné. J'étouffe. Sortons d'ici. » Un grand art classique se maintenait pourtant au milieu de ces industries modernes, comme les ruines des temples antiques, parmi les constructions prétentieuses de la Rome d'aujourd'hui. Mais, à l'exception de Molière, Christophe n'était pas encore en état de l'apprécier. Il lui manquait le sens intime de la langue, donc du génie de la race. Rien ne lui était plus incompréhensible que la tragédie du XVIIe siècle, la province de l'art français la moins accessible aux étrangers, justement parce qu'elle est située au cœur même de la France. Il la trouvait assommante, froide, sèche, écœurante de pédantisme et de minauderie. Une action indigente ou forcée, des personnages abstraits comme des arguments de rhétorique, ou insipides comme une conversation de femmes du monde. Une caricature des sujets et des héros antiques. Un étalage de raison, d'argusie de psychologie, d'archéologie démodée. Des discours, l'éternel bavardage français. Que cela fût beau ou non, Christophe se refusait ironiquement à en décider. Il ne s'intéressait à rien là-dedans. Quelles que fussent les thèses soutenues tour à tour par les orateurs de Sina, il lui était parfaitement indifférent que l'une ou l'autre de ces machines à harangue l'emportât à la fin. Il constatait d'ailleurs que le public français n'était pas de son avis, et qu'il applaudissait fort. Cela ne contribuait pas à dissiper le malentendu. Il voyait ce théâtre au travers du public, et il reconnaissait dans les Français modernes certains traits déformés des classiques. Tel un regard trop lucide qui retrouverait dans le visage flétri d'une vieille coquette les traits purs de sa fille. Le spectacle est peu propre à faire naître l'illusion amoureuse. Comme les gens d'une même famille, qui sont habitués à se voir, les Français ne s'apercevaient pas de la ressemblance. Mais Christophe en était frappé, et il l'exagérait. Il ne voyait plus qu'elle. L'art d'aujourd'hui lui semblait offrir les caricatures des grands ancêtres. Et les grands ancêtres, à leur tour, lui apparaissaient en caricature. Il ne distinguait plus Corneille de sa lignée de rhéteurs poétiques, enragés à placer partout des cas de conscience sublimes et absurdes. Et Racine se confondait avec sa postérité de petit psychologue parisien, penché prétentieusement sur leur cœur. Tous ces vieux écoliers ne sortaient pas de leur classique. Les critiques continuaient indéfiniment à discuter sur Tartuffe et sur Phèdre. Ils ne s'en lassaient point. Ils se délectaient, vieillards, des mêmes plaisanteries qui avaient fait leur délice quand ils étaient enfants. Il en serait ainsi jusqu'à la fin de la race. Aucun pays au monde ne conservait aussi enraciné le culte de ses arrière-grands-pères. Le reste de l'univers ne l'intéressait point. Combien n'avaient rien lu et ne voulaient rien lire, en dehors de ce qui avait été écrit en France sous le grand roi. Leur théâtre ne jouait ni Goethe, ni Schiller, ni Kleist, ni Grillparzer, ni Hebel,
ni Strindberg, ni Lope, ni Calderon, ni aucun des grands hommes d'aucune des autres nations, à part la Grèce antique dont ils se disaient les héritiers, comme tous les peuples d'Europe. De loin en loin, ils éprouvaient le besoin d'enrôler Shakespeare. C'était la pierre de touche. Il y avait parmi eux deux écoles d'interprètes. Les uns jouaient le roi Lear avec un réalisme bourgeois comme une comédie d'Émile Augier. Les autres faisaient d'Hamlet un opéra avec des airs de bravoure et des vocalises à la Victor Hugo. Il ne leur venait pas à l'idée que la réalité pût être poétique, ni la poésie une langue spontanée pour des cœurs débordants de vie. Shakespeare paraissait faux. On en revenait vite à Rostand. Cependant, depuis 20 ans, un effort était fait pour renouveler le théâtre. Le cercle étroit de la littérature parisienne s'était élargi. Elle touchait à tout avec un semblant d'audace. Même 2 ou 3 fois, la mêlée du dehors, la vie publique avait crevé d'une poussée le rideau des conventions. Mais ils se dépêchaient de recoudre les déchirures. C'étaient des pères douillets qui avaient peur de voir les choses comme elles sont. Un esprit de société, une tradition classique, une routine de l'esprit et de la forme, un manque de sérieux profond, les empêchaient d'aller jusqu'au bout de leurs audaces. Les problèmes les plus poignants devenaient des jeux ingénieux, et tout se ramenait finalement à des questions de femmes, de petites femmes. Oh, la triste figure que faisaient sur leurs tréteaux les fantômes des grands hommes, l'anarchie héroïque d'Ibsen, l'évangile de Tolstoï, le surhomme de Nietzsche. Les écrivains de Paris se donnaient bien du mal pour avoir l'air de penser des choses nouvelles. Au fond, ils étaient tous conservateurs. Il n'était pas en Europe de littérature où régna plus généralement le passé, l'éternel hier. Dans les grandes revues, dans les grands journaux, dans les théâtres subventionnés, dans les académies. Paris était en littérature ce que Londres était en politique, le frein modérateur de l'esprit européen. L'Académie française était une chambre des lords. Des institutions de l'Ancien Régime persistaient à imposer leurs normes d'autrefois à la société nouvelle. Les éléments révolutionnaires étaient rejetés ou assimilés promptement. Ils ne demandaient qu'à l'être. Même quand le gouvernement affectait en politique des allures socialistes, en art, il se mettait à la remarque des écoles académiques. Contre les académies, on ne luttait qu'à coups de cénacle, et on luttait fort mal. Car aussitôt qu'un du cénacle le pouvait, il enjambait dans une académie et devenait plus académique que les autres. Au reste, que l'écrivain fût à l'avant-garde ou dans les fourgons de l'armée, il était prisonnier de son groupe et des idées de son groupe. Les uns s'enfermaient dans leur credo académique, les autres dans leur credo révolutionnaire. Et au bout du compte, c'était toujours les mêmes œillères. Pour réveiller Christophe, Sylvain Cohn lui proposa encore de le mener à des théâtres d'un genre spécial, le dernier mot du raffinement. On y voyait des meurtres, des viols, des folies, les tortures, yeux arrachés, ventre étripé, tout ce qui pouvait secouer les nerfs et satisfaire la barbarie cachée d'une élite trop civilisée. Cela exerçait un attrait sur un public de jolies femmes et de mondains. Les mêmes qui allaient bravement s'enfermer pendant des après-midi dans les salles étouffantes du palais de justice pour suivre des procès scandaleux en bavardant, riant et croquant des bonbons. Mais Christophe refusa avec indignation. Plus il avançait dans cet art, plus il sentait se préciser l'odeur qui, dès les premiers pas, l'avait saisie, sournoise, puis tenace, suffocante, l'odeur de la mort. La mort, elle était partout sous ce luxe, sous ce bruit. Christophe s'expliquait la répulsion qu'il avait tout d'abord éprouvée pour certaines de ses œuvres. Ce n'était pas leur immoralité qui le choquait. Moralité, immoralité, amoralité, ces mots ne veulent rien dire. Christophe ne s'était jamais fait de théorie morale. Il aimait dans le passé de très grands poètes et de très grands musiciens qui n'étaient pas de petits saints. Quand il avait la chance de rencontrer un grand artiste, il ne lui demandait pas son billet de confession. Il lui demandait plutôt « Es-tu saint ?» Être saint, tout est là. Si le poète est malade, qu'il commence par se guérir, dit Goethe. Quand il sera guéri, il écrira. Les écrivains parisiens étaient malades, ou quand l'un était saint, il en avait honte. Il s'en cachait, il tâchait de se donner une bonne maladie. Leur mal ne se révélait pas à tel trait de leur art, à l'amour du plaisir,
à la licence extrême de la pensée, à l'esprit de critique destructeur. Tous ces traits pouvaient être, étaient, suivant le cas, sains ou malsains. Il n'y avait en eux aucun germe de mort. Si la mort était là, elle ne venait pas de ses forces, elle venait de leur emploi par ces gens, elle était dans ces gens. Et lui aussi, Christophe aimait le plaisir, lui aussi aimait la liberté. Il avait soulevé contre lui l'opinion de sa petite ville allemande par sa franchise à soutenir des idées qu'il retrouvait maintenant prônées par ses Parisiens et qui, prônées par eux, maintenant le dégoûtaient. Les mêmes idées pourtant, mais elles ne sonnaient plus de même. Quand Christophe, impatient, secouait le joug des maîtres du passé, quand il partait en guerre contre l'esthétique et la morale pharisienne, ce n'était pas un jeu pour lui, comme pour ses beaux esprits. Il était sérieux, terriblement sérieux, et sa révolte avait pour but la vie féconde, grosse des siècles à venir. Chez ces gens, tout allait à la jouissance stérile. Stérile, stérile. C'était le mot de l'énigme. Une débauche inféconde de la pensée et des sens. Un art brillant, plein d'esprit, d'habileté. Une belle forme, certes, une tradition de la beauté qui se maintenait indestructible en dépit des alluvions étrangères. Un théâtre qui était du théâtre, un style qui était un style, des auteurs qui savaient leur métier, des écrivains qui savaient écrire, le squelette assez beau d'un art, d'une pensée qui avait été puissant. Mais un squelette. Des mots qui tintent, des phrases qui sonnent, des froissements métalliques d'idées qui se heurtent dans le vide, des jeux d'esprit, des cerveaux sensuels et des sens raisonneurs. Tout cela ne servait à rien qu'à jouir égoïstement. Cela allait à la mort. Phénomène analogue à celui de l'effrayante dépopulation de la France que l'Europe observait, escomptait en silence. Tant d'esprit et d'intelligence, des sens si affinés, se dépensaient en une sorte d'onanisme honteux. Il ne s'en doutait point. Il riait. C'était même la seule chose qui rassura Christophe. Ces gens-là savaient encore bien rire. Tout n'était pas perdu. Il les aimait beaucoup moins quand il voulait se prendre au sérieux. Rien ne le blessait autant que de voir des écrivains, qui ne cherchaient dans l'art qu'un instrument de plaisir, se donner comme les prêtres d'une religion désintéressée. « Nous sommes des artistes », répétait avec complaisance Sylvain Cône. « Nous faisons de l'art pour l'art. L'art est toujours pur. Il n'a rien que de chaste. Nous explorons la vie en touristes que tout amuse. Nous sommes les curieux de rare volupté, les éternels donjuans amoureux de la beauté. » « Vous êtes des hypocrites, » finit par riposter Christophe. « Pardonnez-moi de vous le dire. Je croyais jusqu'ici qu'il n'y avait que mon pays qui l'était. En Allemagne, nous avons l'hypocrisie de parler toujours d'idéalisme, en poursuivant toujours notre intérêt. Et nous nous persuadons que nous sommes idéalistes, en ne pensant qu'à notre égoïsme. Mais vous êtes bien pire. Vous couvrez du nom d'art et de beauté, avec une majuscule, votre luxure nationale. Quand vous n'abritez point votre pilatisme moral sous le nom de vérité, de science, de devoir intellectuel, qui se lave les mains des conséquences possibles de ces recherches hautaines. L'art pour l'art, une foi magnifique, mais la foi seulement des forts. L'art, étreindre la vie comme l'aigle sa proie et l'emporter dans les airs, s'élever avec elle dans l'espace serein. Pour cela il faut des serres, de vastes ailes et un cœur puissant. Mais vous n'êtes que des moineaux, qui, quand ils ont trouvé quelques morceaux de charogne, le dépècent sur place et se le disputent en piaillant. L'art pour l'art, malheureux. L'art n'est pas une ville pâture livrée aux villes passants. Une jouissance, certes, et de toutes la plus enivrante. Mais elle n'est le prix que d'une lutte acharnée, et son laurier couronne la victoire de la force. L'art est la vie domptée, l'empereur de la vie. Quand on veut être César, il faut en avoir l'âme. Vous n'êtes que des rois de théâtre. C'est un rôle que vous jouez, vous n'y croyez même pas. Et comme ces acteurs, qui se font gloire de leur difformité, vous faites de la littérature avec les vôtres. Vous cultivez amoureusement les maladies de votre peuple, sa peur de l'effort, son amour du plaisir, des idéologies sensuelles, de l'humanitarisme chimérique, de tout ce qui engourdit voluptueusement la volonté, et peut lui enlever toutes ses raisons d'agir. Vous le menez droit aux fumeries d'opium. Et vous le savez bien, mais vous ne le dites point, la mort est au bout. Eh bien moi je dis, où est la mort, l'art n'est point. L'art c'est ce qui fait vivre. Mais les plus honnêtes d'entre vos écrivains sont si lâches que même quand le bandeau leur est tombé des yeux, ils affectent de ne pas voir. Ils ont le front de dire, c'est dangereux, je l'avoue, il y a du poison là-dedans, mais c'est plein de talent. Comme si en correctionnel le juge disait d'un apache, il est un gredin, c'est vrai, mais il a tant de talent. Christophe se demandait à quoi servait la critique française. Ce n'était pourtant pas les critiques qui manquaient. Ils pullulaient sur l'art. On n'arrivait plus à voir les œuvres, elles disparaissaient sous eux. Christophe n'était pas tendre pour la critique en général. Il avait déjà peine à admettre l'utilité de cette multitude d'artistes qui formaient comme un quatrième ou un cinquième état dans la société moderne. Il y voyait le signe d'une époque fatiguée, qui s'en remet à d'autres du soin de regarder la vie, qui sent par procuration. À plus forte raison trouvait-il un peu honteux qu'elle ne fût même plus capable de voir avec ses yeux ces reflets de la vie, qu'il lui fallut encore d'autres intermédiaires, des reflets de reflets, en un mot, des critiques. Au moins eût-il fallu que ces reflets fussent fidèles, mais ils ne reflétaient rien que l'incertitude de la foule qui faisait cercle autour. Telles ces glaces de musée où se réfléchissent avec le plafond peint les visages des curieux qui tâchent de l'y voir. Il avait été un temps où ces critiques avaient joué en France d'une immense autorité. Le public s'inclinait devant leurs arrêts, et il n'était pas loin de les regarder comme supérieurs aux artistes, comme des artistes intelligents. Les deux mots ne semblaient pas faits pour aller ensemble. Puis ils s'étaient multipliés à l'excès. Ils étaient trop d'augure. Cela gâte le métier. Quand il y a tant de gens qui affirment, chacun qu'il est le seul détenteur de l'unique vérité, on ne peut plus les croire, et ils finissent par ne plus se croire eux-mêmes. Le découragement était venu. Du jour au lendemain, suivant l'habitude française, ils avaient passé d'un extrême à l'autre. Après avoir professé qu'ils savaient tout, ils professaient maintenant qu'ils ne savaient rien. Ils y mettaient leur point d'honneur et leur fatuité même. Renan avait enseigné à ses générations amollies qu'il est élégant de ne rien affirmer sans le nier aussitôt, ou du moins sans le mettre en doute. Il était de ceux dont parle saint Paul, en qui il y a toujours « oui, oui » et puis « non, non ». Toute l'élite française s'était enthousiasmée pour ce credo amphibie. La paresse de l'esprit et la faiblesse du caractère y avaient trouvé leur compte. On ne disait plus d'une œuvre qu'elle était bonne ou mauvaise, vraie ou fausse, intelligente ou sotte. On disait « il se peut faire ». Il n'y a pas d'impossibilité, je n'en sais rien, je m'en lave les mains. Si l'on jouait une ordure, il ne disait pas « voilà une ordure ». Il disait « Seigneur Sganarel, changez s'il vous plaît cette façon de parler. Notre philosophie ordonne de parler de tout avec incertitude. Et par cette raison, vous ne devez pas dire « voilà une ordure », mais « il me semble, il m'apparaît que voilà une ordure ». Mais il n'est pas assuré que cela soit. Il se pourrait que ce fût un chef-d'œuvre. Et qui sait si ce n'en est pas un? Il n'y avait plus de danger qu'on les accusât de tyranniser les arts. Jadis, Schiller leur avait fait la leçon, et il avait rappelé aux tyrannos de la presse ce qu'il appelait crûment le devoir des domestiques. Avant tout, que la maison soit nette, où la reine va paraître. Alerte donc, balayez les chambres. Voilà pourquoi, messieurs, vous êtes là. Mais dès qu'elle paraît, vite à la porte, valet. Que la servante ne se carre point dans le fauteuil de la dame. Il fallait rendre justice à ceux d'aujourd'hui. Ils ne s'asseyaient plus dans le fauteuil de la dame. On voulait qu'ils fussent domestiques, ils l'étaient. Mais de mauvais domestiques, ils ne balayaient rien. La chambre était un taudis. Plutôt que d'y remettre l'ordre et la propreté, ils se croisaient les bras et laissaient la tâche au maître, à la divinité du jour, le suffrage universel. À la vérité, il se dessinait depuis quelque temps un mouvement de réaction contre la veulerie anarchique du jour. Quelques esprits plus fermes avaient entrepris une campagne, bien faible encore, de salubrité publique. Mais Christophe n'en voyait rien dans le milieu où il se trouvait. D'ailleurs, on ne les écoutait pas ou l'on se moquait d'eux. Quand il arrivait de loin en loin qu'un vigoureux artiste eut un mouvement de révolte contre la niaiserie malsaine de l'art à la mode, les auteurs répliquaient avec superbe qu'ils avaient raison, puisque le public était content. Cela suffisait à fermer la bouche aux objections. Le public avait parlé, suprême loi de l'art. Il ne venait à l'idée de personne que l'on pût récuser le témoignage d'un public dépravé en faveur de ceux qui le dépravaient, ni que l'artiste fût fait pour commander au public, et non le public à l'artiste. La religion du nombre des spectateurs et du chiffre des recettes, dominait la pensée artistique de cette démocratie mercantilisée. À la suite des auteurs, les critiques docilement décrétaient que l'office essentiel de l'œuvre d'art est de plaire. Le succès est la loi, et quand le succès dure, il n'y a qu'à s'incliner. Il s'appliquait donc à pressentir les fluctuations de la bourse du plaisir, à lire dans les yeux de la critique ce qu'il fallait penser des œuvres. Ainsi tous deux se regardaient, et ils ne voyaient dans les yeux l'un de l'autre que leur propre indécision. Jamais pourtant une critique intrépide n'eût été aussi nécessaire. Dans une république anarchique, la mode, toute puissante, a rarement des retours en arrière, comme dans un pays conservateur. Elle va de l'avant toujours, et c'est une surenchère perpétuelle de fausse liberté d'esprit à laquelle presque personne n'ose résister. La foule est incapable de se prononcer. Elle est choquée au fond, mais aucun n'ose dire ce que chacun sent en secret. Si les critiques étaient forts, s'ils osaient être forts, quel serait leur pouvoir? Un robuste critique, pensait Christophe, ce jeune despote, pourrait en quelques années se faire le Napoléon du goût public et balayer à Bicêtre les malades de l'art. Mais vous n'avez plus de Napoléon. D'abord, tous vos critiques vivent dans cette atmosphère viciée. Ils ne s'en aperçoivent plus. Puis ils n'osent parler. Ils se connaissent tous, ils forment une compagnie et doivent se ménager. Il n'est point d'indépendant. Pour l'être, il faudrait renoncer à la vie de société et aux amitiés même. Qui en aurait le courage dans une époque affaiblie où les meilleurs doutent que la justesse d'une franche critique vaille les désagréments qu'elle peut causer à son auteur? Qui se condamnerait par devoir à faire de sa vie un enfer, oser tenir tête à l'opinion, lutter contre l'imbécilité publique, mettre à nu la médiocrité des triomphateurs du jour, défendre l'artiste inconnu, seul et livré aux bêtes, imposer les esprits rois aux esprits faits pour obéir? Il arrivait à Christophe d'entendre des critiques se dire à une première le soir dans les couloirs du théâtre « Hein, est-ce mauvais? Quel four !» Et le lendemain, dans leur chronique, ils parlaient de chefs-d'œuvre, de Shakespeare nouveau et de l'aile du génie dont le vent avait passé sur leur tête. « Ce n'est pas le talent qui manque à votre art, » disait Christophe à Sylvain Cohn, « c'est le caractère. Vous auriez plus besoin d'un critique, d'un Lessing, d'un Boileau, dit Sylvain Cohn, goguenardant, d'un Boileau peut-être bien, que de 10 artistes de génie. Si nous avions un Boileau, dit Sylvain Cohn, on ne l'écouterait pas. Si on ne l'écoutait pas, c'est qu'il ne serait pas un Boileau, répliqua Christophe. Je vous réponds que du jour où je voudrais vous dire vos vérités toutes crues, si maladroit que je sois, vous les entendriez, et il faudrait bien que vous les avaliez. Mon pauvre vieux, ricana Sylvain Cohn. Il avait l'air si sûr et si satisfait de la veulerie générale que Christophe, le regardant, eut soudain l'impression que cet homme était 100 fois plus un étranger en France que lui-même. « Ce n'est pas possible, » dit-il de nouveau, comme le soir où il était sorti écœuré d'un théâtre du boulevard. « Il y a autre chose. »« Qu'est-ce que vous voulez de plus ?» demanda Christophe. Christophe répétait avec opiniâtreté « La France !»« La France, c'est nous !» fit Sylvain Cohn en s'esclaffant. Christophe le regarda fixement un instant, puis secoua la tête et reprit son refrain. « Il y a autre chose. »« Eh bien, mon vieux, cherchez, » dit Sylvain Cohn, en riant de plus belle. Christophe pouvait chercher, il l'avait bien caché.